Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Pour tenter de limiter le risque de la troisième vague de Covid-19 en janvier, le conseil scientifique recommande l'auto-confinement pendant une semaine à ceux qui souhaitent passer les fêtes en famille et le recours à des tests avant les soirées de réveillon. Nous sommes avec François qui dit auto-confinement, je m'en fiche. C'est ça ce que vous nous dites?
C'est-à-dire que vous m'avez dit que j'avais pas une information claire. Je dois dire que depuis des mois, on n'a pas des informations claires au sujet de cette crise. Hein. Donc je pense qu'à la fin, ça déteint sur nous. Alors je me fiche de l'autoconfinement dans le sens où moi, ça fait un mois que je suis confiné, que j'ai respecté ce confinement à la lettre. J'ai dû sortir deux fois pour aller dans un magasin à 7h du matin et puis rentrer aussitôt parce qu'il y avait une ouverture possible à cette heure-là. Je pense que je suis quand même pas mal confiné et à la fin d'être confiné, j'ai peur de garder que le début du mot, et déjà que c'est terrible. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que on a cette information aujourd'hui, vous l'avez signalé, aujourd'hui, de jeudi, si les parents veulent auto-confiner leurs enfants, ils font comment? Ils les mettent en consigne à la gare parce que on peut pas les mettre chez les grands-parents parce que les grands-parents ils sont par de fait en danger si les petits-enfants ou les enfants vont les voir directement. Les parents vont prendre des congés. Est-ce que l'employeur va pouvoir se permettre de donner des congés? Je sais pas où on va, mais j'ai l'impression qu'on marche sur la tête avec ce gouvernement. C'est-à-dire que à force de ne plus savoir quoi nous dire, on montre du doigt les uns, on montre du doigt les autres, et pendant qu'on regarde ce que le doigt montre, on oublie de savoir qui est-ce qui tend le bras pour montrer du doigt, c'est-à-dire le gouvernement. Aujourd'hui, on nous parle de tout, mais j'entends jamais parler de traitement. J'entends jamais parler de traitement possible.
Parce qu'il n'y en a pas. Et ils sont controversés. Alors, je rappelle simplement les avis du conseil scientifique sur les fêtes. Auto-confinement pendant une semaine avant de rejoindre sa famille. Écoliers, lycéens, tolérance pour les absences jeudi et vendredi. Retour à des tests avant les soirées de réveillon. Et tests au retour pour les résidents qui sortent des EHPAD. Mais là où vous avez raison, c'est que les parents qui ont notamment des enfants qui sont en... Ou collégiens, effectivement, ils peuvent pas se garder tout seuls, par définition. Alors c'est vrai que les écoles restent ouvertes,
Il n'y a plus d'autoconfinement. Si l'école reste ouverte, et on peut plus parler
on peut décider d'enlever ses enfants de l'école, c'est ça que ça veut dire. Mais si vous ne pouvez pas faire autrement, vous envoyez vos enfants à l'école.
Voilà, mais c'est un peu
mon. Mais c'est encore pas clair.
Gens...
Je sais que, à mon avis, tout le monde ne va pas comprendre. Comme toujours, comme les choses ne sont pas claires, c'est comme la recommandation des 6 personnes à table à Noël. Moi, je suis frappé que certains pensent que c'est obligatoire, d'autres que ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc, c'est
rien de clair. On sera 7 et demi parce qu'il y a un enfant et puis il y a 7 adultes, donc je considère qu'on est 7 et demi. Alors,
c'est
tout
sympa
à l'heure,
pour
je vous ai
l'enfant,
dit,
c'est voilà, une demi-personne.
Tout à l'heure, je vous avais parlé d'auto-verbalisation. Oui. Je me demande jusqu'à quel point on ne va pas arriver à l'auto-dénonciation. Quoi. C'est-à-dire que,
mais c'est quoi l'auto-verbalisation?
C'est-à-dire qu'on va se verbaliser nous-mêmes. On va déclarer à l'État qu'on n'a pas respecté le nombre de personnes et comme ça, on va dire, on était deux en plus, vous nous envoyez la verbalisation. Comme ça, on est tranquille. Tout le monde fait son petit beurre et puis l'État, lui, il se décharge toujours sur la population. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi ce qu'il faut en parler, il y a les résidents des EHPAD. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de presque de forcer les familles à reprendre leur résidents en disant pour les fêtes, vous pouvez les sortir de l'EHPAD, vous pouvez les ramener, mais s'ils reviennent, ils feront 7 jours de consigne, vous savez, directement hop, dans la chambre.
Non,
terminé.
C'est test simplement pour les résidents qui sortent des EHPAD. C'est juste
un
test.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est une façon de gérer le manque de personnel dans ces établissements. C'est une façon.
J'en sais rien. Moi, je l'ai pas vu comme ça. C'est simplement une question de prudence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées qui sortent de Noël pour passer Noël en famille et quand elles reviennent à l'EHPAD, ça me choque pas. C'est plutôt,
Ce qui va me choquer, c'est qu'il y a des résidents qui vont rester dans les EHPAD. Oui. Et pendant 10 ans, j'ai fait un spectacle tous les ans, le jour de Noël, j'y tenais. C'est un spectacle gratuit que je donnais aux résidents d'un EHPAD de Normandie. Et cette année, je suis triste parce qu'il y aura pas de spectacle.
Ah bon?
Non.
Il y a rien d'organisé pour les personnes âgées.
Il y a rien.
Donc les personnes âgées dans les EHPAD, le 24 décembre, elles n'auront qu'RTL à écouter toute la soirée.
Voilà. Et le jour de Noël,
pas mal,
moi, je faisais le spectacle le jour de Noël, l'après-midi. Oui. Et je peux vous assurer que j'avais 150 personnes devant moi qui étaient émerveillées, qui étaient heureuses. On leur donnait des petits. Nous, on avait plein de nounours qu'on gardait des peluches. On leur donnait des peluches. Ils étaient heureuses. Cette année, elles n'auront rien.
Rien du tout. Des raisons sanitaires. Bah, merci François de ce premier témoignage.
Merci
beaucoup. On va marquer une première pause. J'ai dit qu'on pourrait parler de Ludwig van Beethoven. Et avec Grégory Carannoni, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on vous proposait d'écouter. Vous ne savez pas forcément que c'est Beethoven. Mais c'est Beethoven parce que c'est dans notre vie depuis toujours. Et à travers la pub, à travers des génériques, pourquoi pas, des musiques de films, que sais-je. C'est très présent. Alors, on s'est dit, on va trouver le top 5 des morceaux de Beethoven. Quel est le premier grec que vous avez choisi?
Alors, j'ai choisi la 5e symphonie.
Voilà, alors ça, c'est pom 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 pom. Ça, mais je pense que tout le monde sait quand même plus ou moins que c'est de Beethoven, non?
J'imagine, je sais pas.
Ludwig von B, comme on dit dans Orange Mécanique. Alors pourquoi on parle de Beethoven aujourd'hui? Parce que il est né il y a 250 ans. 1770. C'est un peu dramatique, forcément. Il y a deux génies.
Merci pour cette bonne humeur.
Mais attendez, ça c'est pom 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 pom. C'est pas de... C'est de bonne humeur. 13h07, c'est un génie, cher ami. La pub.
RTL Midi. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h10 avec Laurent Tessier que je salue.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Allez-vous vous autoconfiner avant de retrouver vos proches à Noël? Question du jour sur notre site RTL.fr. Et je ne comprends pas, nous dit Patrick sur la page Facebook de l'émission. On nous déconfine, on nous conseille de s'autoconfiner, on marche sur la tête dans ce pays. On atteint vraiment des sommets de bêtises pour Aïcha. Pas question, on retrouve un peu de liberté. J'en profite, lance Gabriel. Avis contraire à l'instant de Cathy, c'est du bon sens de rester chez soi avant les fêtes. Je me suis organisé pour et je tiens à préserver mes parents très âgés. Et vos enfants iront sont-ils aussi à l'école jeudi et vendredi? Autre question sur nos réseaux sociaux. Eh bien oui, sans aucun doute, écrit Véro, je n'ai pas de solution pour garder mes deux garçons. On nous avertit trop tard. Et pas de polémique, attendez, pour Carole, il n'y a aucune obligation. Les écoles sont ouvertes, les gens s'énervent pour rien aussi en France.
Dans une période propice au relâchement, les scientifiques, via le Conseil scientifique, appellent à recourir si nécessaire aux tests le mardi, mercredi ou jeudi précédant les réveillons de Noël et du Nouvel An, mais sans céder au sentiment de fausse sécurité. Les tests ne permettent pas d'exclure à 100% une infection et les gestes barrières doivent continuer d'être respectés. Thierry, sur l'autoconfinement, bonjour.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous allez vous autoconfiner?
Non, je vais continuer à faire attention, mais je ne vais pas m'autoconfiner parce que d'abord... ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une blague, entre guillemets.
Pourquoi?
Parce que si on se confine, on sort du confinement, on fait des attestations, on n'en fait pas. Après, quand j'ai vu l'histoire de ne pas mettre les enfants à l'école le jeudi, vendredi, qu'on serait excusé, mais ça devient du grand n'importe quoi. Mais c'est quoi cette date butoir de Noël là? C'est quoi ce, on dirait une finalité de choses. Il faut absolument que le 25 décembre, tout le monde puisse partir, bouger, tout ça. Mais est-ce que les gens se rendent compte que... On est en train de tout foutre en l'air. Vous vous rendez compte, la vie de ces pauvres restaurateurs et tout, quand ils voient ça?
Et vous avez écouté Gilbert Deray, par exemple, dans le journal de Christelle
à l'heure? Non, désolé, j'ai pas pu tout à l'heure.
Parce que lui, on peut peut-être sortir un passage où il est encore. Il trouve dommage même qu'on soit déconfiné à Noël. Il trouve que c'est là.
Vous vous rendez compte, pas vous, Pascal, mais. J'ai pas compris, mais le 20 janvier, on peut s'y asseoir dessus.
Bien
les
sûr,
restaurants
ça,
pas
je
ouvrir.
Vous confirme que ça va être.
Je vais vous dire une chose, Pascal. Samedi soir, on est promené en voiture à 5 minutes autour de chez nous, comme ça. Juste comme ça, pour les petits voulaient voir un peu les décorations qu'il y avait dans les maisons qui brillent. C'est joli. On a fait 5 km devant deux maisons, sans spécialement regarder. Les salles à manger étaient pleines. Il n'y avait pas 4 personnes. Il était moins 10 ou 15.
Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français ne sont pas raisonnables, selon vous?
Les gens s'en foutent. Les gens ont envie de vivre comme bon leur semble. Mmh. Ils s'en foutent de ce qu'on leur dit. Ça fait depuis le début, on entend sans cesse, de toute façon, moi je veux ma liberté, moi ceci, quand les gens vous parlent de dictature et tout, mais on devient complètement barjot.
Mais vous pensez quoi?
Moi, je pense qu'il faut tous se calmer un peu, laisser faire les spécialistes, et comme disait un des professeurs il n'y a pas très longtemps, là, tant que de toute façon la vaccination ne sera pas lancée et qu'on n'aura pas vacciné massivement la population à risque et qu'on n'aura pas fait des choses pour étouffer ce virus, on n'avancera pas, on n'y arrivera pas.
Donc là, vous êtes quelle position ? Vous êtes sur une position de tout fermer, de relâcher ?
Non, mais on ne peut pas faire confiance aux gens. Ça fait au mois de juin qu'on a ouvert...
Donc vous voulez fermer ?
Si, il faut être strict, on va fermer, mais bon, pour de vrai, pas semblant.
Mais oui, mais alors vous avez commencé en me disant, vous vous rendez compte, les restaurateurs, etc., et puis vous terminez en disant, faut fermer.
Attends, je me suis mal compris, excusez-moi, je parlais pas de fermer excusez-moi, j'ai pas compris. Je croyais que vous me parliez du confinement.
Mais vous êtes sur une position stricte de respecter à fond le confinement, ou au contraire, vous pensez qu'il faut ouvrir ?
Non. Respecter strict le confinement comme on n'a jamais fait depuis le mois de mars. On ne l'a jamais fait.
Donc vous êtes sur la position de Gilbert Deray, en fait.
Mais oui, parce qu'on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait.
Si, on l'a fait d'ailleurs pendant deux mois.
Non. Au mois de mars, vous preniez une feuille, vous faisiez une croix dessus et vous alliez où vous voulez. Et les gens ont fait ça tout le temps.
Moi, j'ai l'impression que les gens sont plutôt disciplinés. En tout cas, qu'est-ce que vous allez faire, vous, à Noël ?
Eh ben, avec mes deux enfants et ma femme, on va faire notre petit repas tous les quatre. On va fêter Noël tous les quatre et ça sera très bien.
Donc il n'y a pas de parents ou grands-parents ?
Non.
Donc vous respectez le... Donc finalement, on a commencé la discussion en disant que vous ne vous auto-confinez pas, et finalement vous vous auto-confinez.
Mais non, je ne m'auto-confine pas, je fête Noël en famille avec mes deux enfants et ma femme.
Oui, mais d'habitude, l'année dernière, vous étiez combien ?
On était quatre, mes deux enfants et ma femme.
Ah oui, donc tous les ans, vous êtes quatre.
Tous les ans, mais...
Non, mais peut-être que vous n'avez pas de famille, Thierry, moi j'en sais rien.
Bien sûr,
peut-être que vous ne voulez pas l'avoir et vous avez parfaitement le droit aussi.
Non, c'est pas ça. Et puis en plus, là, les risques sanitaires sont là cette année. Donc voilà, on va...
Donc vous êtes prudent.
On est très prudent, est très prudent.
Et vous serez où, à Angoulême, en Charente ?
Voilà, à côté d'Angoulême, oui.
D'accord.
On sera très bien. Mais franchement, Pascal, j'ai l'impression que vous l'avez déjà dit plusieurs fois, que la situation nous fait devenir complètement... c'est pas le mot Barjot que vous employez.
On devient tous finir fous.
Mais voilà, fous. Voilà, on devient tous fous et c'est n'importe quoi. Et franchement, 2021, on va le redémarrer comme on a terminé 2020. Et puis malheureusement, ça va encore durer parce que je sais pas. Tant qu'on ne prendra pas...
Gilbert Deray, c'était intéressant aussi ce qu'il disait. C'est-à-dire que là, il y a une perspective. La perspective, c'est quand même la fin avec le vaccin. Donc, effectivement, il disait qu'il y a encore un effort à faire de 8-9 mois, hein, c'était ce qu'il disait, et qu'on a, une fois que tout le monde sera vacciné, cette crise-là, cette épidémie.
La vie, elle ne va pas s'arrêter. Il faut être un petit peu patient dans la vie.
Oui, mais dites ça. Vous faites quoi dans la vie, Thierry ?
Je travaille sur un site, sur Internet. Ouais.
Bon, vous êtes payé.
Oui, mais c'est bien justement pour ça. Je vois où c'est que vous voulez revenir, Pascal.
Moi, je vous assure, je le dis tous les jours, ceux qui ne sont pas payés, ceux qui sont payés à la fin du mois, cette séquence Covid de la même manière.
Je suis d'accord avec vous, mais moi, je suis peut-être payé. Mais justement, en faisant comme j'ai dit de faire, en restant ferme et en restant chez moi, je fais tout pour que justement ceux qui ne le sont pas payés et qui sont actuellement fermés puissent réouvrir le plus tôt possible.
Mais si vous étiez sans revenu depuis le 15 mars, moi je connais des gens qui sont sans revenu depuis le 15 mars.
Mais bien sûr,
qui n'ont pas forcément d'aide.
Et je suis d'accord avec vous, mais ça, j'ai jamais dit le contraire.
Ah oui, mais qu'on comprenait que dans ces cas-là, on voit les choses différemment, parce qu'on voit quand même souvent les choses, hélas ou heureusement, en fonction de ses propres intérêts.
Ouais, mais quel rapport avec le fait de s'autoconfiner à partir de jeudi ?
Ben ça, il n'y en a pas forcément. Mais on avait un petit peu dévié. Alors c'est vrai que c'est un peu égoïste de voir toujours les choses par rapport à soi, mais c'est en même temps humain. Quelqu'un qui n'a pas un centime depuis le 15 mars, ben il se dit « ça serait bien que mon domaine rouvre, forcément », parce qu'il pense que son domaine n'est pas à ce point nuisible au reste de la société. Merci Thierry, en tout cas.
Merci Pascal, bonne
Vive
journée
la Charente.
À vous. Merci.
Il est 13h17, c'est la journée Beethoven, on a dit, hein, monsieur Caradoni, tout à l'heure c'était la 9e même. Alors là, qu'est-ce que vous nous proposez de Beethoven ?
Je vous propose la sonate au clair de lune.
Ah, c'est gay, alors ça c'est gay.
Madame, monsieur, bonsoir.
Ici. Ah oui, ça c'est terrible, ça c'est plombant, ça c'est pour le 24 décembre quand on va être tout seul. Ça c'est quand on va être en famille, ou pas.
Avec la belle-mère.
La belle-mère. L'océan, vous voulez dire ?
Exactement.
Ah bon ? La sonate au clair de lune, c'est absolument formidable.
C'est tellement beau, la sonate au clair de lune. C'est tellement bien. C'est tellement formidable ce que vous faites, Grégory, pour la musique classique française. En l'occurrence, étrangère. Une petite page de pub.
On peut vraiment pas l'écouter, hein.
Vous voulez que les gens s'en aillent, en fait. C'est ça, le truc. Vous voulez que les gens partent?
Non.
Bon. À tout de suite, ami.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
L'autoconfinement, c'est notre sujet. Est-ce que vous allez vous autoconfiner avant de retrouver vos proches? Nous sommes avec Pierre, qui est responsable en entreprise, qui habite le Morbihan. Bonjour Pierre.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous avez des enfants peut-être?
Oui, quatre.
Quatre enfants, mais ils sont en âge d'être à l'école ou ils sont...
Oui, oui, j'en ai à tous les niveaux scolaires, oui.
Bon, donc vous allez les envoyer à l'école jeudi et vendredi?
Oui.
Donc vous n'allez pas respecter l'idée de l'autoconfinement?
Si, parce que je vais respecter les règles liées à Noël où je ne vais pas descendre dans ma famille et se regrouper à 10, 15, 20 personnes. Je vais rester en famille avec ma femme et mes enfants à la maison. Donc on va se confiner, on va passer le réveillon de Noël et du premier de l'an ensemble pour respecter les règles. J'ai été élevé dans ce monde-là de règles et de valeurs, donc je vais et donc à ce titre-là, j'ai pas besoin que mes enfants n'aillent pas à l'école pour pouvoir faire la fête après avec tout le monde. Donc c'est moi ce qui me dérange dans ce principe, c'est l'image que ça donne. C'est on privilégie, alors Noël est une fête, ok, mais on privilégie la fête et pour pouvoir faire la fête, eh ben on ne va pas à l'école. Donc moi je vais avoir du mal à expliquer à mes enfants qu'on ne va pas dans la famille.
C'est un raccourci,
faire Noël,
c'est un raccourci
ensemble.
Quand même. C'est un raccourci.
mais c'est dans les valeurs et l'image que ça donne. Moi je vais avoir mes enfants en primaire, au collège, ils vont avoir des camarades qui ne vont pas aller à l'école. Qui vont faire Noël comme si de rien n'était en famille, alors que moi, on s'auto-confine, on respecte les règles pour pouvoir... Et je suis assez d'accord avec l'auditeur d'avant, hein, de dire, bah voilà, pour que on en finisse le plus tôt possible et que les restaurateurs ouvrent.
Oui, mais c'est pas tout de suite les restaurateurs. Hein. Je vous assure, le 20 janvier, si moi je devais parier ce matin, je ne suis pas... Je pense pas que je mettrais un billet sur le fait qu'ils rouvrent le 20 janvier.
Bien sûr, mais plus on respectera les règles, plus ça leur permettra d'ouvrir tôt. Mon épouse a un petit commerce, elle a été fermée pendant des mois, hein, des semaines. Elle vient de rouvrir, là, commerce coiffure esthétique. Et voilà, donc on sait que... Alors, je travaille à côté, hein, j'entends les arguments aussi, mais on a été aussi contraints d'arrêter l'activité de mon épouse. Et pour pouvoir qu'elle reprenne, il faut qu'on respecte les règles. Voilà.
L'année dernière, par exemple, à Noël, vous étiez combien?
Oh bon, on était une quinzaine du côté de ma belle-famille et puis une bonne dizaine de mon côté. Ouais.
Et là, donc, c'est le premier Noël depuis très longtemps que vous allez rester. Vous avez quatre enfants, vous allez être six. Voilà.
Ça n'est jamais arrivé, effectivement. Mais d'accord. Voilà, si on veut que ça avance et qu'on...
Tant
qu'on
non, je pense que beaucoup de gens vont faire comme vous, de toute façon. Et alors, peut-être, vous avez vos parents, Pierre?
Oui, oui, j'ai mes parents.
Mais alors, vos parents, par exemple, vous avez 50 ans, vos parents, ils ont près de 70,
ouais,
80 ans?
Oui, ils ont entre 70 et 75 ans, mes beaux-parents aussi.
Hein, donc, ils vont rester tout seuls?
Mes parents avec ma sœur, qui voilà, et puis mes beaux-parents vont être seuls, effectivement.
D'accord.
Vont être seuls.
Bon, et tout ça est vécu plutôt bien, parce que c'est le premier Noël, et puis finalement, c'est pas... Il y a plus grave dans la vie que de passer un Noël seul, avec en plus, s'ils ont la chance d'être en couple ce soir-là,
il y a effectivement,
dans l'échelon, il y a plus grave quand même.
Voilà, et on se dit, il y en aura d'autres, et si on veut justement éradiquer ça, et en plus, on veut pas les mettre en danger.
Tout ce que vous dites est sage.
Hein, donc voilà, donc c'était surtout les images qu'on donne aussi, hein, de respect des règles, tout simplement. Et plus on les respectera tous, et les cinémas réouvriront, et voilà.
Hein, non, mais moi j'ai le sentiment que les gens respectent les règles, je le dis souvent à ce micro, et je pense simplement qu'il faut penser, notamment au secteur de la culture, où on explique qu'il n'y a pas de cluster dans les théâtres et dans les cinémas, qu'au contraire, ces endroits-là, on a respecté à la lettre depuis des mois les protocoles. Donc on ne comprend pas forcément pourquoi c'est pas ouvert. On a le sentiment que si c'était ouvert, ça ne changerait rien. Vous savez combien il y a de personnes Combien de personnes dans Paris, par exemple, dans les théâtres parisiens, si tous les théâtres ce soir sont pleins, tous les opéras sont pleins, toutes les salles de spectacle sont pleins, vous savez combien ça représente de personnes dans Paris ?
Des dizaines de milliers, voire centaines de milliers.
Eh ben non, 35 000 personnes simplement. 35 000 personnes. Donc il ne faut pas qu'on nous dise qu'il y a du brassage. C'est pas vrai.
Mais surtout,
il y a pas de brassage de population, 35 000 personnes, si tout est plein, parce que tout ne serait jamais plein. C'est à Paris, hein, uniquement à Paris, 35 000 personnes.
Mais je suis allé au cinéma, alors hors confinement.
Je parle pas du cinéma, je parlais que théâtre.
Oui, mais c'est pareil, hein, avec un siège espacé. Là, vous pouvez compter les gens, il y a du gel, il y a des choses. Mmh. Et je comprends la colère de ces gens-là quand on voit les grandes surfaces et les galeries marchandes d'un samedi. Moi, j'y suis pas allé samedi parce que je me suis dit, ça va être. Et dans les faits, j'ai des amis qui y sont allés, ils ont dit, mais on n'a jamais vu autant de monde dans les galeries marchandes.
Mais évidemment, et ce matin.
Je peux comprendre les gens du spectacle qui soient un peu remontés sur ces sujets-là.
Et ce matin, j'ai écouté l'excellente chronique de l'ami Cyprien Sini, vous l'avez peut-être entendu, la ligne 14.
Oui,
la ligne 14, où c'était l'ouverture d'un Black Friday. Hein, c'est le Premier ministre Jean Castex qui l'a inauguré hier, un prolongement à Saint-Ouen de la ligne 14 du métro parisien, destiné à soulager la célèbre ligne 13. Bon, il y avait un monde fou, donc c'est vrai que les gens perçoivent une forme d'incohérence. Merci Pierre.
Oui.
Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Laurent Tessier, 13h26.
Et vous pouvez nous appeler sur d'autres sujets au standard. Emmanuel Macron a ouvert la voie à la tenue d'un référendum pour inscrire la défense de l'environnement dans la Constitution. Son organisation, d'ici la fin du quinquennat, devra passer par plusieurs étapes.
Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale, puis le Sénat, et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum.
Vous vous en félicitez. Est-ce une priorité pour vous ? Ce référendum n'a aucun sens. 32-10. La police peut-elle encore intervenir dans les quartiers sensibles ? Deux agents ont été frappés dimanche après-midi à Valenciennes par une quinzaine d'individus. Ils intervenaient dans un quartier pour faire cesser un rodéo de voiture.
Il se faisait rouer de coups de poing et de coups de pied devant son collègue qui, lui, était complètement désemparé. Il appelait des véhicules en renfort, mais bon, tant que ça arrive. Donc avant d'assurer la sécurité de nos concitoyens, il faut déjà qu'on assure la nôtre et essayer de faire passer la peur dans l'autre camp.
Et puis, un peu de douceur qui peut aussi vous faire réagir au standard. Nous célébrons le 250e anniversaire de la naissance du compositeur Beethoven.
Ludwig van Beethoven, né en 1770, le 15 décembre. Vous reconnaissez cette célèbre lettre à Élise que tous les apprentis pianistes tentent de jouer. Et comme je le disais tout à l'heure à Christelle Rebière, en fait, cette lettre à Élise était destinée à Thérèse, qui était une des amoureuses de Ludwig van Beethoven. Et puis on a trouvé que Élise était plus jolie que Thérèse.
Ah.
Donc c'est resté dans l'histoire avec la lettre à Élise.
C'est beau. C'est une info pour briller.
C'est une info pour briller.
C'est vrai.
Non, c'est vrai. Hein, j'ai appris ça. Vous savez que comment Proust appelait quelqu'un qui sait quelque chose depuis peu de temps et qu'il répète à tout le monde ? Il appelait ça les savants de la veille. C'est joli, non ? Eh bien, on connaît tous des savants de la veille, et moi-même, j'ai fait mon savant de la veille.
C'est ce que j'allais vous dire, j'en ai un face à moi.
Et voilà, parce que je savais pas, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Et je le répète beaucoup depuis.
Du coup, vous êtes un savant de la veille du savant de la veille, finalement. C'est une sorte de mise en abîme.
Je vois qu'il y a Damien Béchiot qui est avec vous.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il fait là ?
Je me prépare pour demain, Pascal.
Ah, c'est vous le réalisateur demain, mais pourquoi vous criez dans le micro ?
Je ne sais pas. Parce que j'ai pas de casque et je ne m'entends pas.
La pub, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Allez-vous vous autoconfiner avant de retrouver vos proches à Noël ? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans une note d'éclairage scientifique publiée lundi. Les scientifiques rappellent qu'il est nécessaire de limiter au maximum les réunions familiales et amicales, en particulier durant cette période de fin d'année ou en discutant les raisons, ou en en discutant les raisons avec son entourage. Nous sommes là avec Isabelle. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour Pascal.
Et manifestement, Isabelle se moque du conseil scientifique comme de votre première chemise.
Bah, c'est pas que je me moque du conseil scientifique, c'est que je veux dire, depuis le début, on entend tout et n'importe quoi. Un jour ils disent oui, un jour ils disent non. Personne n'a aucune certitude. J'entends aussi de grands professeurs qui sont, pas plus bêtes que les autres et qui vont dire qu'effectivement, il faut les gestes barrières, il faut faire attention, mais qu'à côté de ça, il y a beaucoup de choses qu'on nous fait faire qui sont totalement inutiles. Et de toute façon, moi je fais partie des vieux, hein, j'ai 71 ans, donc je suis...
Non, vous n'êtes pas vieille, 71 ans. Mais Isabelle, puisque c'est 13h30, je voulais juste amorcer le début de la discussion, mais on fait toujours une petite parenthèse, vous savez, avec la chanson de Noël. Donc pardonnez-moi de vous couper, mais comme Ingrid est là, à 13h30, bonjour Ingrid.
Bonjour Pascal.
On voulait, vous avez une voix jeune Ingrid.
J'ai 35 ans.
Ah, on dirait que vous avez moins.
C'est gentil.
Et le Noël, un souvenir de Noël Ingrid.
Ah, il y a 3 ans à Stockholm.
Comment c'était?
C'était magnifique, majestueux, des illuminations de partout, la neige, le décor de Noël en fait, de rêve, comme dans les films.
Et pourquoi vous étiez allée à Stockholm?
Bah, j'ai allé une première fois, j'avais gagné un voyage et on a voulu y retourner plus. Et c'était la période de fête, vraiment, on voulait cet univers magique, l'ambiance de Noël. Et dans les pays scandinaves, il n'y a pas mieux. Donc, c'était excellent.
Vous étiez avec qui?
Avec mon meilleur ami qui est devenu mon compagnon après.
Ah oui, vous êtes partie, c'était votre meilleur ami au départ, il est devenu compagnon ensuite. Et ça s'est fait, si j'ose dire, à Stockholm?
Non, après.
Ah, après.
C'est mon médecin en plus.
C'est votre médecin aussi, vous êtes parti avec votre médecin meilleur ami. Ouais. Mais alors quand vous êtes parti, vous aviez, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous étiez dans deux chambres séparées?
Non, mais deux lits séparés par contre.
Ah, vous étiez dans la même chambre mais dans deux lits séparés. Ah oui, voilà. Oui, effectivement.
Oui, non, on était entre amis.
Donc ça crée déjà une petite proximité, disons-le.
Voilà.
Ah oui. Et donc, mais pendant cette période-là, il n'y avait rien eu?
Non, on a profité de la magie du voyage.
D'accord. Et alors, c'est au retour que vous êtes dit comme une évidence, voilà.
Voilà.
Mon médecin, meilleur ami, est devenu aussi mon amoureux.
Voilà, le vrai film de Noël cucu.
Mais on est tous comme ça. On adore ces films de Noël. Et il s'appelle comment, le compagnon?
Il s'appelle Sébastien.
Sébastien. Bon, c'est Belle et Sébastien, en l'occurrence, Ingrid, avec vous. Et comment dire, et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
Ça fait 2 ans.
Donc un an après ce voyage à Stockholm. Ouais. Mais alors à Stockholm, à Noël, vous n'avez pas dû voir beaucoup le jour parce que...
Non. Mais la magie là-bas, justement, c'est que comme il y a rarement des journées très, très éclairées, il n'y a pas de volet en fait dans ces villes-là. Et tout le monde met une petite lampe derrière sa fenêtre. Il n'y a pas de volet, c'est que des rideaux. Et du coup, quand on se balade la nuit, enfin même à partir de 15h, 14h, et on voit toutes les fenêtres éclairées et ça donne vraiment une atmosphère de dingue.
C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est une très jolie ville, Stockholm. L'été, c'est très particulier parce qu'il n'y a pas de nuit, pour le coup. Je crois qu'il y a 2 heures simplement de nuit, entre minuit peut-être et 2 heures du matin.
Et l'hiver, il y a 2 jours
L'hiver, évidemment, c'est le contraire, chère Ingrid. Quelle est la chanson que vous avez choisie pour honorer Noël?
C'est la chanson d'Elvis, Blue Christmas, si je me trompe pas.
Blue Christmas.
Mais j'aime beaucoup cette chanson.
Allons-y. Très bien Ingrid, l'atmosphère de Noël, vous savez que les téléfilms de Noël font un malheur à la télévision actuellement, j'ai vu Clovacelli aussi repasser l'autre jour à la télé, c'est vrai qu'on aime cette atmosphère, cette ambiance, et bien je vous remercie.
Isabelle Morini-Boss aime beaucoup.
Exactement, oui, Isabelle, elle rappelait, ça fait un malheur, je ne sais combien de millions de gens regardent chaque jour des téléfilms de Noël puisque tout le monde les programme. Ben, merci Ingrid, vous faites quoi cette année?
Cette année, petit comité, on sera 4 avec un super beau plateau de fruits de mer, hein, Bretagne oblige, et puis beau plateau de fromage.
Donc vous serez avec Sébastien?
Voilà, et un couple d'amis.
Et un couple d'amis, donc pas en famille. Bon, il n'y a pas d'enfants encore dans le...
Lui, il en a, mais ils sont de l'autre côté. Donc, d'accord. Ils sont chez la maman.
Ils sont de l'autre côté. Non, mais il n'y a pas d'enfants ensemble, c'est ce que je voulais dire.
Non, j'ai un chat, moi.
Vous avez un chat? Ah oui, mais voilà. Convenons que ce n'est pas la même chose qu'un enfant.
Non, tout à fait, mais c'est moins encombrant.
C'est pas faux non plus, bien évidemment. Alors, vous avez gagné un cadeau, Ingrid. Le
super,
cadeau de Grégory.
Ça va vous plaire, Ingrid, pour écouter vos chansons de Noël. Je vous offre aujourd'hui un casque intra-auriculaire, c'est-à-dire qu'il rentre à l'intérieur de l'oreille pour être vraiment en immersion. Et alors, l'avantage de ce casque, c'est qu'il est sans fil. Du coup, vous allez pouvoir l'associer à votre téléphone, par exemple, et puis vous balader et ne pas avoir de fil qui traîne, avoir les mains libres pour être en immersion dans votre musique et penser à Sébastien.
C'est génial, merci.
Mais bien sûr, c'est génial.
Avec plaisir. Et alors, on a encore un autre cadeau. Tenez, Isabelle.
À l'occasion des fêtes de Noël qui approchent, RTL offre à tous les auditeurs qui passent à l'antenne cette semaine un lot de chocolat Jeff de Bruges. Chaque lot contient les meilleures recettes gourmandes Jeff de Bruges.
C'est pas mal, n'est-ce pas ?
Qui est-ce qui a crié ?
C'est Damien Béchaud qui rêve de manger des chocolats Jeff de Bruges.
Mais pourquoi il crie comme ça ?
Je sais pas.
La pub, à tout de suite.
Vous regrettez de ne pas connaître les paroles, Pascal, n'est-ce pas ?
Mais je laisse le chanteur, parce qu'on m'a dit que parfois je pirate le chanteur et que j'enlève le plaisir à l'auditeur. Et tout ça arrive.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Revenons avec Isabelle sur cet autoconfinement, puisque vous serez très nombreux à Noël, dites-vous, Isabelle. Vous serez combien ?
Nous, on sera 53, mais j'ai juste mes enfants et mes petits-enfants. Hein.
Ah bon ? Donc,
Non, il n'y a aucun étranger. Non, c'est que la famille. C'est mes enfants et mes petits-enfants.
Donc, mais ça fait combien de personnes autour de la table ?
Ben, autour de la table, ça fait 18 adultes et ça fait 30, je ne sais plus combien de petits-enfants.
Non, mais je croyais qu'en fait, j'avais mal entendu. Vous allez être 53 à Noël ? J'appelle tout de suite le Matignon. Est-ce qu'on peut joindre Jean Castex, s'il vous plaît, Greg Caranoni ? Parce que je dénonce désormais.
Oui, mais je
non, mais 53, déjà, vous avez une grande maison.
Bah, on a une grande maison.
Arrêtez.
Je raccroche, d'accord.
Vraiment Jean Castex.
Oui, ah bah, il va pas être content, Jean Castex. Hein, mais je peux appeler Laurent Gérard, si vous voulez. Non, mais 53, vous les mettez où, les 53 personnes ?
On se débrouille, on met des sacs de couchage, on met...
Est-ce que tout le monde va dormir en plus ?
Bah, évidemment, vous savez bien qu'on ne peut pas partir. Après, si le soir de Noël, si, mais enfin, ils ne vont pas aller dans des hôtels à côté, non ?
Mais c'est quoi, vous habitez dans un château ?
Oh, bah, pas du tout, non. C'est des bâtiments qui étaient totalement en ruine et qu'on a rénovés pour pouvoir... Bah, on est nombreux, donc on a besoin d'avoir un grand truc.
Et vous habitez où ? Dans Paris ?
Ah non, j'habite Paris, mais là, ça sera dans le Var. Excusez-moi.
Ah oui, c'est dans le Var. Donc, c'est une grande maison, une grande maison à la... Un peu à l'extérieur de la ville, à la campagne ?
Ah mais complètement dans le trou du cul du monde, comme on dit aimablement.
D'accord. Alors, 53 personnes. Mais donc, d'abord, c'est du boulot. Je ne sais pas qui va organiser le dîner du 53. Mais là, vous prenez des risques XXL, Isabelle.
Bah oui, mais moi, je suis XXL moi-même à 71 ans. Donc, si vous voulez. Et puis, écoutez, moi, je vais vous dire juste un truc. Alors, je sais que les gens vont hurler, vont dire que c'est égoïste, etc. Les personnes, comme on dit, âgées, ont une espérance de vie beaucoup moindre. Donc si vivre, c'est être confiné chez moi, à ne rien faire, à être inutile, quel intérêt ? Voilà, donc même à Paris, je vais vous dire ce que je disais tout à l'heure, je fais des maraudes, parce que comme ça, au moins, j'ai une utilité quelconque, puisque je ne vois pas mes enfants et mes petits-enfants. Donc je veux dire, vivre, c'est prendre des risques de toute façon. Je peux mourir demain en me faisant renverser par une voiture, vous aussi. Voilà, vous pouvez... je peux même mourir sur la route en partant, je peux... Enfin, je veux dire...
Non mais j'entends bien, mais dire, même pour vous, là, vous allez avoir des petits-enfants. Oui. Et en plus, je déteste pour le coup être dans cette position-là, soit de vous faire... faire des leçons de morale ou bon, mais comprenez, c'est plus l'avocat du diable que je joue en l'espèce.
Je vous écoute en général parce que comme je fais toujours plusieurs choses à la fois parce que forcément j'ai un temps limité quand même.
Mais là, je me dis quand même pour vous, 53 personnes pour vous, vous pouvez contracter. Vous n'avez pas eu le Covid ?
Je n'en sais rien.
Ah bon ? En tout cas, vous n'avez pas eu de manifestement de symptômes.
Très fatiguée cette année. Mais je connais plein de gens qui l'ont eu. J'ai mes enfants qui ont été positifs, voilà. Et alors, ils ont été positifs, point. Ils n'étaient pas malades, ils n'avaient pas de symptômes. Donc peut-être que moi, j'ai... Je ne sais pas, de toute façon. Bon. Mais je veux dire, vivre, c'est prendre des risques. Et quand on dit aux gens, surtout quand ils sont âgés, vous ne voyez plus vos petits-enfants, vous ne faites pas embrasser, etc. Vous imaginez ce que c'est ? Enfin bon, je veux dire, et même pas que pour les gens, parce que moi, j'ai un de mes petits-fils qui a 18 ans, qui habite à la maison, qui fait ses études. Je suis désolée, mais quand je vois la vie, la tristesse de la vie qu'il a, faire ses cours sur un... Mais, enfin, je trouve ça monstrueux. Foutre un pays en l'air pour, bah, je dirais, 0,09% de la population qui, de toute façon, est âgée, qui, comme l'a dit un cher monsieur, les personnes âgées, de toute façon, ont une espérance de vie qui est résiduelle, donc finalement, hein, quel intérêt. Voilà, donc honnêtement...
Ça pourrait faire réagir à ce que vous dites, si vous me permettez, Isabelle, de dire les personnes âgées, ils ont une espérance de vie, donc résiduelle.
C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Excusez-moi, c'est pas moi qui l'ai dit.
Mais forcément, j'ai l'impression que vous allez rester avec nous parce que je pense que ça serait pas mal qu'on puisse vous apporter la contradiction. Je suis sûr que des auditeurs aimeront engager la conversation avec vous.
Mais je suis sûr que plein de gens seront contradictoires. Mais de toute façon, si vous voulez, je peux vous donner plein d'exemples de personnes qui, sans être qui disent, nous, on a envie, notre vie, c'est aussi d'avoir notre famille.
Mais je l'entends. Mais là, vous êtes 53, donc là, vous battez tous les records, quand même. Noël à 53, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il faut vraiment avoir beaucoup de famille et beaucoup de surface.
Vous aurez, je sais pas, si vous avez 8 enfants, vous aurez 8 gendres et belles-filles, plus des petits-enfants.
Je suis d'accord avec vous, mais bon, pour le moment, j'en ai que 4. A priori, je vais m'arrêter là. Mais parce que vous avez combien d'enfants, Isabelle ?
J'en ai 8.
8 enfants ?
Ah oui,
ça rigole pas. Bon, restez avec nous. Nous, on poursuit notre playlist Ludwig von B. Avec l'ami Greg Caranoni.
Avec plaisir, et la symphonie numéro 7, ça va vous parler, c'est un peu plus joyeux.
Vous savez qu'en plus, cette symphonie numéro 7, vous avez peut-être écouté ce matin Anthony Martin, mais Philippe Labro avait écrit un texte absolument formidable pour Johnny Hallyday, qui chantait sur cette musique. Ça s'appelait Poème sur la 7e. Et vous connaissez peut-être ce texte. Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes? Dans le creux de chaque dune, j'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. J'aurais bien aimé plonger dans mon corps une seule fois dans la rivière. C'est un texte de Labro formidable avec Johnny Hallyday. C'était une pépite d'Anthony Martin ce matin.
Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? Oh, j'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi les photos.
La pub.
C'est ça.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Deux policiers ont été roués de coups par une quinzaine d'individus lors d'une intervention sur un rodéo de voiture dans un quartier sensible de Valenciennes dimanche, a indiqué le syndicat policier Alliance. Une agression fermement condamnée par la préfecture, d'où notre question. La police peut-elle encore intervenir dans les quartiers sensibles? Nous sommes avec Gaëlle au féminin. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous habitez dans le Val d'Oise.
Tout à fait.
Votre sentiment?
Mon sentiment, si, il faut que la police puisse et doit encore intervenir dans ces quartiers sensibles. Il ne faut pas que ça devienne des zones de non-droit. C'est vrai que les interventions vont devenir de plus en plus compliquées, puisque en face, il y a des gens qui ripostent et qui n'aiment pas qu'on intervienne quelque part sur leur territoire. Mais je pense que pour la population qui y vit, voir les patrouilles de police ou de gendarmerie, c'est rassurant. Donc moi, pour moi, mon sentiment, c'est qu'il faut continuer à y aller.
Alors, évidemment, nous serons tous d'accord avec vous sur l'intention et en théorie, mais est-ce qu'elle peut encore intervenir? C'est ça, dans les quartiers sensibles. Est-ce qu'à un moment, même les policiers vont avoir tout simplement peur?
De toute façon, je pense que les policiers ont peur tout simplement le matin, ou même les gendarmes, quand ils prennent leur poste, quand ils prennent leur fonction, ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas sur quoi ils vont intervenir. La peur est là, et j'irais au-delà de ça, je dirais, est-ce qu'on va continuer à avoir une police et une gendarmerie dans les temps à venir? Parce que comment motiver des jeunes à rentrer dans les écoles de police quand on voit ce qui se passe ?
Votre mari est pompier, votre fils est gendarme. Quel âge il a, votre fils ? Parce que vous êtes jeune, hein, Gaëlle.
22 ans, il a.
Il est entré dans la gendarmerie quand ?
Ça va faire 3 ans.
Bon, il est content ?
Oui.
Donc il trouve que les difficultés, finalement, ou les craintes qu'il pouvait avoir, elles existent bien sûr, mais elles sont compensées par un plaisir de travail et par une satisfaction de ce qu'il fait.
Alors, il est satisfait, il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme dans tous les métiers.
Il est où ? Parce que c'est important, évidemment, si t'es en pleine campagne, ce n'est pas la même chose que si t'es dans un quartier sensible de Paris.
Ce que j'allais dire, c'est que le début de sa carrière, il l'a fait à Barcelonnette, hein, donc c'était une petite caserne tranquille. Là, il est remonté sur la région parisienne, je ne dirai pas où, mais il est dans un plus gros centre, avec des interventions beaucoup plus dures. Et effectivement, il ne sait pas s'il ne va pas plutôt passer en police municipale, malgré que le risque est le même, hein, je vous l'accorde.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on préfère être en police municipale plutôt que gendarme ?
Alors, d'après ce qu'il me dit, hein, c'est déjà il y a un attrait financier qui est mieux, qui serait mieux. Voilà, parce que là, la police, je ne sais pas eux comment ils sont payés, mais la gendarmerie, vous n'êtes pas payé les jours fériés, vous n'êtes pas payé en heures sup, c'est un nombre d'heures à faire à l'année. Comme chez les pompiers, il semblerait qu'en police municipale, ce soit différent. Les villes chouchoutent un peu leurs policiers municipaux, donc ils ont plus facilement accès à des formations, et notamment aux stands de tir, hein, pour mieux s'entraîner, même s'ils ne sont pas armés, ils ont quand même certains des tasers. Et j'en veux pour exemple l'intervention qu'il y a eu à Nice, quand il y a eu le dernier attentat, où c'est la police municipale qui est intervenue en premier. Effectivement, ils étaient bien organisés. On voyait que derrière, il y avait de la formation et ils ne sont pas lâchés dans la nature.
Merci Gaëlle, parce qu'on a appris plein de choses à travers votre témoignage. Votre mari est pompier professionnel, hein ?
Pompier professionnel, oui. Bon. Et c'est pareil pour les pompiers, les interventions deviennent compliquées quand on arrive dans des cités ou même sur des simples feux de voiture, puisque certains feux sont allumés pour les attirer et derrière, des bandes leur tombent dessus.
Cette réalité qu'on décrit quotidiennement, ou en tout cas quasi quotidiennement, est effrayante, mais c'est une réalité de la société française aujourd'hui. Merci Gaëlle.
De rien, excellente journée à vous. Merci. Et bonne fête à tous.
Eh ben, c'est très gentil à vous. Qu'est-ce que vous faites à Noël ?
Eh ben, pour le coup, je vais chez mon fils et ma belle-fille faire Noël. On sera 5. Tout simplement.
Parce qu'il y a un petit enfant qui est né, peut-être dans le couple de votre fils ?
Non, c'est sa sœur qui vient avec moi et on emmène la grand-mère, comme ça, elle sera pas toute seule pour son Noël.
Ça c'est bien. Et puis à 22 ans, il n'est pas encore papa, votre fils, peut-être ?
Non. Puis ils ont envie de se donner du temps, donc je ne les presse pas, je ne suis pas pressée non plus.
Merci. Merci Gaëlle. Il reste quelques secondes peut-être avant de parler de ce référendum qui est proposé par Emmanuel Macron, dont on apprend d'ailleurs qu'il n'est pas sûr qu'il ait lieu ce référendum, puisqu'il faut que le Sénat et notamment les Républicains votent, et c'est pas gagné, comme dit l'autre. Bonjour Pauline. Pauline, bonjour. Est-ce qu'elle m'entend, Pauline ?
Est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends, Pauline. Alors, il est important de dire que vous êtes une élue, hein. Vous êtes une élue Écologie Les Verts à Boulogne-Billancourt.
Exactement.
Bon, donc vous êtes pour évidemment ce référendum, forcément.
Alors, forcément, je suis pour tout ce qui est bon pour l'environnement, donc ce référendum, je suis pour, mais je pense pas que ce soit la panacée. Enfin, comme disent les membres de la Convention citoyenne pour le climat, faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est bien de faire un référendum, mais si ça cache le fait qu'on recule sur toutes les autres mesures, c'est pas la fête, quoi.
Ça serait important déjà de consulter les Français pour savoir quel rapport ils ont avec l'écologie et le climat, en tout cas.
Je suis tout à fait, je suis tout à fait pour. Et d'ailleurs, je constate qu'à chaque fois qu'on consulte les Français, les Françaises, et c'est d'ailleurs le cas des personnes de la Convention citoyenne pour le climat, c'est des gens qui ont été tirés au sort. En fait, c'est pas ni des activistes, ni des personnes qui étaient en politique avant. Et c'est des Français tirés au sort, donc ils sont représentatifs et elles sont représentatives. Et eux, quand on les consulte, ils sortent des mesures particulièrement ambitieuses. Donc,
vous regrettez qu'on ait reculé ?
Moi, j'étais assez marquée par l'histoire de la publicité, parce qu'en fait, ça peut paraître anecdotique, mais quand il y avait une experte du GIEC qui était venue les voir, la Convention citoyenne pour le climat, Valérie Maisson-Delmotte, elle leur avait dit qu'il fallait retenir qu'une mesure, c'est l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants. Et en fait, ça, c'est une mesure de bon sens. En fait, on sait qu'il faut que notre culture par rapport à ça, elle change. Et quand on est entouré de publicité pour des produits polluants, c'est difficile de changer d'état d'esprit. Et je pense qu'en fait, ça, c'est vraiment regrettable. Et en fait, c'est symbolique de à quel point on n'est pas du tout conscient de l'urgence qu'il y a à changer de modèle de société. Donc ça, c'est une des mesures sur laquelle je regrette qu'on soit revenu.
Bah écoutez, merci beaucoup Pauline, merci. La première partie des auditeurs va se terminer, nous allons écouter le flash dans une poignée de secondes et on sera avec Martin Blachier. Qui ne connaît pas aujourd'hui Martin Blachier, qui est épidémiologiste? Nous sommes tous désormais un peu médecins, un peu épidémiologistes. On a appris plein de choses durant cette séquence qui dure depuis quasiment un an maintenant. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT.
Il est 14h. Le flash avec Olivier Bois.
Michel Rubirola, la maire écologiste de Marseille, va donner une conférence de presse cet après-midi à 16h. Elle pourrait démissionner de ses fonctions au profit de son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan. Elle réunit en tout cas ses équipes dans une demi-heure à Marseille. Les 12 millions d'élèves de la maternelle à la terminale autorisés à rater l'école jeudi et vendredi. Si les parents le peuvent, c'est même ce que conseille le gouvernement. Ça permettrait, selon les autorités, de respecter un meilleur isolement à l'approche de Noël. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sera l'invité de Thomas Soto dans RTL Soir, tout à l'heure à 18h15. Le conseil scientifique qui conseille d'ailleurs à tout le monde de s'auto-confiner, de s'isoler au maximum avant la soirée du réveillon du 24. On en reparle dans un instant. Cette soirée qui sera la seule exception au couvre-feu, qui est désormais la règle à partir de 20h. Pour le reste, c'est fait. Nous n'avons plus besoin d'attestation pour sortir de chez nous en journée. Les déplacements en France ne sont plus restreints. Et les jeunes de moins de 18 ans sont autorisés à refaire du sport en salle, sauf sport de contact. Les syndicats de police Alliance et UNSA refusent de participer au Beauvau de la sécurité. Cette grande concertation annoncée par Emmanuel Macron à partir de janvier. Il dénonce un énième séminaire sans mesures concrètes. Le quintet à Pau, l'arrivée provisoire à l'instant le 6, le 7, le 5, le 3 et le 13. Et puis la météo de l'après-midi, la France coupée en deux, nuageux et pluvieux sur toute la moitié est. Il y aura des éclaircies en revanche côté ouest du pays et les températures de 7 à 12 degrés sur la moitié nord, de 13 à 16 degrés dans le sud.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro
et Laurent Tessier à 14h02 avec Martin Blachier que vous connaissez.
Ce matin, le réveil sonne, vous vous dites ça y est, nous sommes déconfinés.
Nouvelle étape, à partir de ce mardi 15 décembre, terminer les attestations. Plus besoin d'attestation pour sortir de chez vous.
Mais attention, il faut désormais respecter un couvre-feu entre 20h et 6h du matin. Au revoir tout de même le déconfinement, mais le répit est de courte durée.
This is CNN Breaking News.
Pour échapper à une troisième vague en janvier, le conseil scientifique prône l'auto-confinement pendant une semaine avant les fêtes de fin d'année, si vous voulez passer en famille, plus un test avant les soirées de réveillon.
Une recommandation pour tenter de limiter le risque de troisième vague de Covid-19 en janvier. Et les vacances vont arriver plus vite que prévu pour certains. Autres conseils du conseil scientifique, les enfants pourront ne pas aller en classe jeudi et vendredi.
Donne-moi ta main.
Il faudra que les parents, évidemment, préviennent leur établissement scolaire, sachant que la période d'incubation du virus est d'en moyenne 5 ou 6 jours. Ça limitera les risques pour les enfants qui iraient réveillonner avec leurs grands-parents, par exemple.
Une recommandation partagée par le Premier ministre Jean Castex, ce n'est pas une obligation, on le rappelle, hein. Les écoles, collèges et lycées seront toujours ouverts. Des conseils en tout cas insuffisants pour le professeur Gilbert Deray, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et invité de RTL ce midi.
Quand on aligne des demi-mesures, on finit par ne plus avoir de mesures du tout. Et donc la demi-mesure, c'était on enlève le jour de l'an et on laisse Noël, et puis on va rajouter maintenant un confinement pour ceux qui peuvent, etc. On paye un prix élevé au fait de ne pas avoir pris la bonne décision, qui était de dire que 2020 étant ce qu'elle est, il ne fallait pas faire cette fête de Noël, il fallait la faire plus tard, ça n'a pas été fait.
Alors, est-on en train de se réveiller un peu tard ? Vos enfants iront-ils à l'école jeudi et vendredi ? Allez-vous vous auto-confiner avant de retrouver vos proches à Noël ? Suivrez-vous toutes ces recommandations ? Combien serez-vous d'ailleurs à table ? Tiens Isabelle au 32-10.
On sera 53, mais j'ai juste mes enfants et mes petits-enfants. Hein. Les personnes, comme on dit, âgées, ont une espérance de vie beaucoup moindre. Si vivre, c'est être confiné chez moi, à ne rien faire, à être inutile, quel intérêt ?
Déconfinement, auto-confinement, recommandations, comment vivez-vous cette période ?
Ouais, on devient tous fous.
Déconfinez-moi. Oui, mais pas tout. de suite.
Et ça y est, on est en train de perdre Pascal Praud. Avec nous en studio, le docteur Martin Blachier, médecin épidémiologiste.
J'ai me convoité. Bonjour monsieur Blachier.
Bonjour.
Bon, vous avez entendu votre confrère de Ray ? On n'aurait pas dû faire Noël.
Non, je pense que c'est fou de dire ça. Je pense pas qu'une soirée de Noël puisse relancer totalement l'épidémie. C'est exagéré.
Bon, Martine est avec nous. Bonjour Martine.
Bonjour Pascal.
Et vous allez pouvoir échanger avec Martin Blachier, que vous connaissez d'ailleurs, que vous suivez, j'imagine, à la télévision, à la radio.
Oui, je le suis. J'aime beaucoup ce qu'il dit, oui. Mmh. Bonjour docteur.
Bonjour.
Votre fils ira à l'école ou n'ira pas à l'école jeudi et vendredi ?
Alors, mon fils ira à l'école pour deux raisons. Alors, pour moi, j'ai deux façons de voir la... J'ai un écho, c'est normal ?
Vous avez un écho, c'est normal ? Ça, je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement.
Bon. Mmh. Donc, alors, moi, je vois cette information de deux façons. Soit le gouvernement s'est trompé et c'est un aveu d'échec et il considère que les écoles sont des foyers de contamination. Donc quand nos enfants vont à l'école, potentiellement ils reviennent avec le virus. Et donc ils nous demandent de les sortir à la veille des fêtes. Mmh. Soit pour eux, l'école est un élément non essentiel de la vie de nos enfants. Et c'est pas grave s'ils ratent deux jours dans l'année. Ils ont raté 6 mois, donc c'est un 2 de plus, et peu importe. Voilà. Donc moi, j'avoue, ce matin, en écoutant cette information, j'étais très, très étonnée. Celle-là, je ne l'attendais pas. D'autant plus que mon fils fait la natation. Et ben aujourd'hui, il devait reprendre ses cours. Comme il a cours de 20h à 21h, couvre-feu, oblige, les cours ne reprennent pas.
Martin Blachier.
Mais je partage totalement l'analyse qui vient d'être faite. Je ne comprends pas cette déclaration. Qu'on dise comme en Allemagne, une semaine avant la fête de Noël, essayez de limiter vos interactions sociales, essayez de limiter les fêtes. Faites du télétravail, n'allez pas au travail. C'est très bien. Ça tombe sous le bon sens. Et moi, ça fait un mois, je dis que c'est une bonne mesure plutôt que de faire ces campagnes de testing où la moitié des gens pensent qu'ils sont négatifs alors qu'ils sont positifs. Mais en revanche, cibler l'école, mais quelle erreur! La France, c'est le pays modèle pour la gestion de l'école. On n'a pas fermé les écoles, on a laissé les gens y aller et toutes les données scientifiques vont dans le sens du gouvernement. Donc pourquoi se saborder quelques jours avant Noël en demandant aux enfants de ne pas aller à l'école les deux derniers jours de l'année alors qu'on n'arrête pas de dire que les écoles ne sont pas des lieux de contamination malgré le nombre de gens qui essayent de faire fermer les écoles? Je ne comprends pas. Je pense que ça, c'est un peu de l'amateurisme. Ils auraient simplement dû dire plus de télétravail, éventuellement les collégiens et les lycéens parce qu'on sait qu'ils transmettent, mais surtout pas les écoles. C'est contre-productif. Ils sont en train de casser tout l'effort qu'ils ont fait.
Il est 14h07, la publicité, nous revenons dans un instant.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Martin Blachier est avec nous, évidemment, vous pouvez l'interroger, mais moi je vois venir quand même quelque chose de nouveau avec cette affaire de vaccin. Et on comprend maintenant que le 20 janvier, les restaurants ne seront pas rouverts, et sans doute le théâtre et le cinéma non plus. Et comme on a la perspective du vaccin, je me demande si le gouvernement se dit « tant que tout le monde ne sera pas vacciné, on ne rouvre rien ».
Mais le gouvernement n'a pas le choix. C'est soit il laisse redémarrer l'épidémie, soit il maintient le statu quo. Aujourd'hui, on est sur un plateau. Ça veut dire qu'on ne peut pas bouger, sinon on refait partir l'épidémie. Donc ils n'ont pas le choix. Donc la réalité, c'est que la seule porte de sortie, c'est le vaccin, parce qu'on est en hiver, et dès qu'on ouvre une porte, les courbes vont remonter, et dans tous les pays d'Europe, ils ont fermé.
C'est combien de temps pour les théâtres, les cinémas et le monde de la culture et des restaurateurs?
Jusqu'à la fin de l'hiver, sauf si on dit à tous les gens du travail, maintenant c'est télétravail strict, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de marge de manœuvre sur l'épidémie, mais là les gens sont trop retournés au travail, on a quasiment la moitié des gens qui sont retournés au travail depuis le deuxième confinement, et donc ça fait qu'on est sur un plateau et qu'on peut plus bouger.
Donc les restaurants, à votre avis, c'est pas ouvert avant le 15 avril?
Ah oui, à mon avis, je ne vois pas comment les restaurants peuvent réouvrir mi-janvier comme c'est prévu, étant donné la situation telle qu'elle est aujourd'hui.
Ce n'était pas le cas lorsqu'on en a parlé, même il y a encore un mois, parce que le vaccin n'était pas encore dans les tuyaux, si
non,
je veux dire.
Non, c'est pas le vaccin qui fait...
Mais
même s'il n'y avait pas eu le vaccin, on n'aurait pas laissé filer l'épidémie.
Bah, ça,
aucun pays n'a laissé filer l'épidémie, j'ai du mal à croire qu'il l'ait fait.
Bon, Stéphane est avec nous, bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à tous les
Quelle
deux.
Quelle sera
bonjour,
votre Pascal, stratégie bonjour. Pour passer Noël?
La stratégie, elle est simple, mais après avoir pas mal hésité, on fera le réveillon en tout petit comité, c'est-à-dire avec ma femme et ma petite fille.
Donc là, vous serez trois.
tout à fait. On a décidé ce week-end, en fait, de pas le faire en famille. On n'est pas très nombreux. On est entre 8 et 10 avec un seul enfant. Mais j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents qui sont relativement âgés, puisqu'ils ont plus de 85 ans. Et mon épouse et moi, nous sommes pas mal exposés, puisque pas de possibilité de faire de télétravail, ni elle ni moi. Donc, on préfère retarder le repas de Noël qu'on repousse au 30, en fait.
L'année dernière, par exemple, vous étiez une dizaine autour de la table.
À peu près, oui, un peu moins.
Bon, comment vivent aujourd'hui vous avez vos deux grands-parents aujourd'hui?
Oui, bon. J'ai la chance d'avoir mes deux grands-parents.
Parce que vous avez 40 ans quand même, c'est pas si fréquent.
C'est ça. Bon. Non, j'ai beaucoup de chance et en bonne santé.
Donc ces deux grands-parents vont passer Noël, pardonnez-moi, sans doute tout seuls.
Évidemment, oui. Bon, ils sont très entourés malgré tout, on n'est pas loin.
Mais c'est vrai que c'est pas un drame non plus de passer un Noël tout seul, bien sûr, on est d'accord qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Mais comment le vivent-ils?
Mais écoutez, autant que faire se peut, ils le vivent pas trop mal. Moi, je les ai eus au téléphone ce week-end. On est résignés. Je crois que si on veut fêter un Noël l'année prochaine, alors beaucoup de gens vont peut-être lever les yeux au ciel, mais on en est là aujourd'hui. C'est que la Covid s'attrape. On sait pas encore trop comment, mais il y a différentes voies pour l'attraper et on n'est pas à l'abri. Donc tout le monde dans mon entourage se dit ça et aujourd'hui on va être prudent et on est résignés. On fera en fait le réveillon de Noël le 30, puisqu'à partir du 24, on sera tous confinés. Dans nos domiciles respectifs. On va se faire tester sur cette période juste avant et là on sera tranquille le 30 de pas être des foyers de contagion.
Bon, ce qui est certain, c'est que j'ai le sentiment, Martin Blachier, que les gens à ce micro en tout cas sont plutôt globalement raisonnables et pour eux prennent ce type de mesures de protection.
Oui, oui, tout à fait. Les gens ont conscience. Alors après, chacun a le droit de prendre sa décision individuelle. Je crois que c'est comme ça que c'était pensé et c'est très bien. Non, je pense effectivement que faire un repas de Noël entre 6 et 10 le 24 au soir dans une période où il n'y a pas non plus une circulation virale qui est dantesque, et on est plutôt dans une situation basse par rapport au reste de l'Europe, c'est pas un risque qui est considérable à partir du moment où vous faites relativement attention. Donc,
je suis à l'antenne, ouais. Excusez-moi, bonjour docteur.
Bonjour.
Encore une fois, j'en parlais tout à l'heure quand j'ai été sélectionné au standard en fin de matinée ou vers midi et demi, on demande aux gens d'être raisonnables. Mais croyez-vous que les gens le soient vraiment? À titre individuel, nous le sommes tous, mais à partir du moment où vous avez un effet de groupe ou un effet familial derrière, je pense plus que les gens soient raisonnables.
Non, mais
entouré de bon sens.
Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, vous retrouvez avec vos parents, c'est quelque chose qui, dans tout moment de l'épidémie, n'est pas totalement conseillé. Donc, c'est-à-dire que si vous ne voyez pas vos gens le 24 au soir, vous allez les voir quand?
On les voit, on a bien d'autres moments, mais on est toujours... Moi, ce que je reproche à beaucoup de personnes, au gouvernement en particulier, c'est qu'on n'a pas de position ferme et stricte. On est là à se dire, le risque est minime, mais le risque est là. Le risque existe et on n'est pas en train de parler d'une grippe ou on n'est pas en train de parler d'une gastro où on va s'en remettre, on va faire 5 jours de fièvre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de traitement. Le vaccin arrive le 4.
Je suis entièrement d'accord avec vous. La seule chose que je vous dis, c'est que faire une réunion de famille à 6 le 15 janvier, le 1er février ou le 24 au soir, c'est le même risque au niveau de la transmission du virus. Donc on a tout centré sur ce 24 décembre, mais je pense que les gens se voyaient en famille depuis l'été. Donc je ne comprends pas pourquoi on s'est à ce point-là excité sur le 24 au soir.
La symbolique de Noël. On est malgré tout de tradition catholique et chrétienne et Noël a une forte connotation traditionnelle. On se fixe là-dessus, mais la vigilance, elle doit se faire de chaque instant et les repas familiaux, à moins d'avoir pu, comme on le dit, s'isoler une semaine auparavant. Tous les gens qui, avant le 24, se sont isolés une semaine, se sont testés le premier jour de l'isolement, les risques sont nuls.
Voilà, non, mais la seule chose que je voulais vous dire, monsieur, c'est que vous retrouvez le 30 au lieu du 24, ça ne va pas changer le risque de transmission, sauf si vous avez fait le test avant, et dans ce cas-là, c'est très bien.
C'est ce qui est prévu, on fait le test notre premier jour ou la veille de se confiner chacun chez soi. On ne bouge pas, mais même pas pour aller chercher le pain. On va faire des provisions, des choses comme ça. Si on veut se retrouver, et sans parler de se faire la bise, en respectant des distances et en étant vigilant là encore, mais on sera plus serein. Il y a tellement de gens, vous verrez.
C'est-à-dire que vous êtes avec votre compagne, ce que j'ai compris, et vous êtes exposé. Vous êtes ni l'un ni l'autre en télétravail. Donc le soir, quand vous rentrez chacun de votre travail, objectivement, il y a un risque que l'un de vous ait contracté la maladie.
Évidemment, mais mon épouse se fait tester toutes les semaines. Alors.
D'accord, mais vous ne respectez pas avec votre épouse les gestes barrières.
On fait attention. Alors, on va pas être sur des gestes stricts. On est une vie de couple et on a que 40 ans. Encore une fois, moi, je parle par rapport aux aînés, aux gens à partir.
Mais vous n'avez pas le masque à la maison, par exemple.
Elle l'a eu. Quand il y avait des suspicions, puisqu'elle travaille au quotidien avec des patients atteints du Covid, elle a mis le masque pendant une semaine.
Parce qu'elle est dans le secteur médical.
tout à fait, ouais, tout à fait.
Non, mais je comprends ça, je comprends. Et notamment pour les enfants, ça, en tout cas, c'est compréhensible. Je ne sais pas comment vous gérez, vous, votre vie personnelle, Martin Blachier. Vous n'êtes pas au contact de malades.
Non, non, moi, je vis chez moi, je travaille de chez moi. Ouais. De temps en temps, je vais au bureau quand j'ai besoin. Je ne devrais pas, d'ailleurs, mais il m'arrive d'y aller.
Mais vous n'êtes pas au contact de malades. Mais effectivement, des médecins qui sont au contact de malades, comment gèrent-ils ça lorsqu'ils entrent ou qu'ils rentrent dans leur famille le soir?
On n'a jamais considéré dans la gestion de l'épidémie qu'il fallait appliquer des mesures barrières à l'intérieur du domicile. Et dans toutes les simulations qu'on fait, on considère systématiquement qu'à partir du moment où il y a un membre du foyer qui est contaminé, il va contaminer s'il doit contaminer le reste du foyer. Ouais. On n'a jamais demandé aux gens d'appliquer des mesures barrières chez eux, sauf si jamais vous vivez avec un parent qui est effectivement très malade et que vous ne voulez pas contaminer.
Il est 14h17, on fait une intermède musicale depuis 13h, puisque nous nous souvenons qu'en 1770, le 15 décembre, Ludwig van B est né. Donc on fait la playlist de Beethoven.
Oui, absolument.
C'est le dernier extrait, là ?
Je voulais mettre un peu de sourire. Ah, ça ne vous parle pas, hein ?
Bien sûr que si.
C'est le thème du film Beethoven.
Exactement. Voilà.
Beethoven le chien.
Exactement.
Ah oui, non, attendez. Moi, je connais pas ça, Beethoven le chien. Non, vous êtes gonflé quand même.
Je sais.
Mais c'était quand même une musique de Beethoven.
Non, c'est pas une musique de Beethoven,
mais
c'est une musique de Randy Edelman. Ah, oh, je voulais faire un clin d'œil.
Mais vous ne respectez plus rien, ami.
On peut faire la pub?
Oui, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes toujours avec Martin Blachier. On est sur l'autoconfinement, bien sûr, dans cette période particulière. On avait un Stéphane. Voici un autre Stéphane qui arrive, qui est opticien. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Pascal.
Est-ce que vous allez vous auto-confiner ?
Eh bien, disons que je ne vais pas m'auto-confiner au sens où on va recevoir un petit peu de la famille quand même à la maison. Je vais recevoir ma maman, voilà, mes beaux-parents, ma sœur et mon beau-frère, et ainsi que ma belle-sœur. Et puis voilà, avec les enfants, moi j'ai deux enfants, ma sœur a une fille, donc on sera une dizaine, on va dire, à la maison.
Et donc des personnes âgées également?
Alors, des personnes âgées, des personnes, mes beaux-parents et ma maman ont, on va dire, 63, 65, 66 ans, voilà. Donc on n'est pas sur des personnes très âgées. En revanche, la raison de mon appel, c'est parce que c'est un petit peu particulier. Si vous voulez, moi, ma situation par rapport au Covid et ma pensée par rapport au Covid, elle est partagée. Et je vous explique la raison pour laquelle elle est partagée. Mon papa, j'ai enterré mon papa de vendredi dernier. Il est mort d'un cancer du poumon. On lui a découvert cette maladie juste pendant le premier confinement. Et puis bon, ben voilà, il a pas gagné contre cette maladie.
Il est parti en 8 mois.
Il est parti en 6 mois, ouais. On lui a diagnostiqué fin mai. Si vous voulez, voilà, il y aurait toutes les raisons du monde d'en vouloir à tout, parce qu'il a appris son cancer en étant tout seul dans une chambre. Il a pas vu ma mère pendant des semaines et des semaines et des semaines quand il était à l'hôpital. Heureusement, en France, on a quand même la chance, de pouvoir faire de l'hospitalisation à domicile, ce qui lui a permis quand même de finir des jours au moins à la maison. Mais c'est compliqué. Bon, est-ce que pour autant il faut en vouloir à tout le monde ? Est-ce qu'il faut pour autant en vouloir à des jeunes qui ont envie de se retrouver à l'âge de 18 ans parce que ils ont envie de faire la fête et c'est quand même bien de leur âge ? Est-ce qu'il faut en vouloir pour autant à des gens qui, comme certains auditeurs, disent bah écoutez, moi voilà, j'ai envie de voir ma famille, c'est une fête de fin d'année, c'est précieux, c'est comme ça. Je suis pas certain, quoi. Je suis pas certain. Je donne de conseils à personne. Je me permets pas non plus de juger des autres. Moi, je crois pas un seul instant que dans ce pays, il y ait des gens qui vraiment veulent faire du mal aux autres en n'obéissant pas toujours à toutes les règles. Si on peut pas, moi je pense que c'est un problème qui est bien plus profond. Aujourd'hui, moi j'ai quand même la vague impression que dans notre société, tout le monde juge tout le monde. Voilà, il y a une bien-pensance qui est en chacun de nous, et à partir de là, de toute manière, tout le monde a tort. Eh ben, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je fais confiance aux autres et je me dis bon ben certes. Il y en a peut-être qui seront un petit peu plus nombreux, c'est pas pour autant que ça va former des clusters. Il y en a d'autres qui décident de s'isoler, et ben ma foi, c'est très bien s'ils pensent que c'est ce qu'il faut faire. Mais faut être un petit peu tolérant, quoi. Si on n'est pas tolérant, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'avenir dans ce pays.
Bah merci Stéphane pour votre témoignage. Et puis, c'est vrai que les mots sont toujours inutiles dans ces cas-là, mais on ne peut que vous souhaiter du courage et vous présenter à vous et à votre famille
nos
condoléances. Martin Blachy va vous répondre.
Oui, ça a été très difficile pour tous les gens qui sont tombés malades pendant cette période-là parce qu'ils n'ont pas pu avoir la meilleure réponse à la maladie et à la situation de par cette crise Covid. Et ça, ça a été un vrai sujet. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet encore aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent aujourd'hui d'avoir des soins parce que le système est complètement embolisé. Parfois, je parle avec des chirurgiens différents. Ils disent on n'a pas de patients, on n'opère pas. Et tous ces gens-là, il va falloir qu'on les récupère après. Donc, il y a ce vrai sujet de tous ces gens qui attendent d'être soignés et qui n'ont pas accès aux soins parce qu'on est dans une situation complètement anormale. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on arrive à gérer cette crise. Ensuite, sur la France... On a des discussions un petit peu mouvementées, mais on est considéré comme un pays qui gère globalement bien cette deuxième vague. On a réussi à la contenir et on est aujourd'hui sur un rythme de stabilisation. Le problème, c'est qu'on aura du mal à en bouger, puisqu'on est sur un rythme où on ne peut pas trop se permettre d'en sortir. Et visiblement, les comportements des gens aujourd'hui sont suffisants pour contrôler l'épidémie. Après, ce qu'on voit dans tous les pays, c'est qu'au bout d'un moment, ça s'érode. C'est-à-dire que les gens se fatiguent. Et donc, en fait, la situation ne fait que se relâcher petit à petit. Et ça, c'est inéluctable, parce qu'au bout d'un moment, les gens en ont marre. Après, le risque réel sur cette fête de Noël, moi, je pense qu'il est un petit peu surestimé. Parce que je ne pense pas que les gens ne voyaient plus du tout leur famille pendant des mois. Je pense qu'ils vont la revoir pendant Noël. Et je pense que les circonstances de la fête de Noël vont pas être si différentes de certaines circonstances qui devaient se faire pendant les week-ends où les gens ont été voir leurs parents, ont été voir leurs frères, ont été voir leurs sœurs, ont été voir leurs meilleurs amis. Donc en fait, j'ai pas compris pourquoi il y a eu cette excitation sur les fêtes de fin d'année, d'autant qu'on a parlé de Thanksgiving aux États-Unis et au Canada. Et quand vous regardez Thanksgiving aux États-Unis et au Canada, ça n'a pas fait exploser l'épidémie. En fait, vous voyez la date, elle se trouve au milieu de la troisième vague. Donc je pense qu'il faut être raisonnable parce qu'on sait qu'il faut jamais être trop nombreux dans un événement. Mais en revanche, moi j'ai envie de dire aux Français, profitez de cette fête de Noël avec les quelques proches que vous avez. Ce n'est pas ça qui va changer l'histoire de l'épidémie, c'est plein d'autres choses.
Ben merci Martin Blachier et merci à Stéphane. Et puis pensez pour vous Stéphane, je le répète, et puis pour votre maman, j'imagine que ce moment est...
Je voudrais juste redire un petit mot, si vous me le permettez, au sujet du système de santé. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il vit des heures difficiles. Et il y en a beaucoup qui, j'en ai entendu aussi pas mal critiquer, on a un système de santé en France qui est quand même exceptionnel. Parce que aussi durs soient les moments qu'on est passés ces derniers mois, je peux vous dire qu'on a croisé des gens tous plus formidables les uns que les autres.
Bah merci Stéphane, vraiment merci beaucoup de ce dernier témoignage. Merci, il est 14h27, Flavie Flamand dans une seconde, et merci une nouvelle fois à Martin Blachier.
Merci à vous.
Qui a été présent avec nous une nouvelle fois aujourd'hui.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.